www.radio-canu.fr.
Religion du monde.
Geneviève Delru. Bonjour à tous. Les obsèques de Sœur Emmanuelle mercredi dernier ont été à l'image de sa longue vie, un hymne à l'amour et à la charité. Enterrée dans la plus stricte intimité à Callion, un petit village du sud-est de la France, elle devait recevoir à Notre-Dame de Paris l'hommage de la nation, avec la présence du président Nicolas Sarkozy et de 12 membres du gouvernement, dont la ministre de l'économie et des finances Christine Lagarde. La messe de Requiem, qu'accompagnaient les chants de la maîtrise de la cathédrale, devait marquer un temps de pause spirituelle dans ces temps de crise financière. L'amour a été au cœur de la cérémonie et c'est l'ancien ministre socialiste Jacques Delors qui a lu la célèbre lettre de Saint Paul aux Corinthiens qui fut ensuite lue en langue arabe.
S'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes.
لما كنت إلا نحاسا يطن وصنجا يرن.
Pourquoi Sœur Emmanuelle fut-elle si populaire auprès des Français? Certes, il y a son œuvre, sa personnalité pétillante, son sens de la communication, son franc-parler, sa joie de vivre, mais à quelles attentes des Français répondait-elle? Question posée à Frédéric Lenoir, sociologue des religions et directeur de la rédaction du Monde des religions.
Moi, je crois que Sœur Emmanuelle répondait à deux attentes. D'abord, une attente de générosité, de solidarité, de partage. Elle représentait, au-delà de la foi dont elle était porteuse, un message d'amour du prochain, un message de lutte contre l'injustice qui répond à une très forte attente de la société française. De même que l'abbé Pierre avait joué ce rôle de médiateur qui permettait de réconcilier les croyants et les incroyants, les républicains et les catholiques au-dessus de tous les clivages pour les réunir dans un élan, une aspiration de générosité et de fraternité. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle réconciliait un peu la tradition et la modernité. Elle avait un côté, par son côté bonne sœur, qui rappelait vraiment le monde catholique traditionnel, qui est tout un héritage français important, et puis par son discours extrêmement direct, le fait qu'elle tutoie tout le monde, qu'elle ait aucune langue de bois, qu'elle soit adaptée, on va dire, à l'évolution des mœurs, tout ça en faisait quelqu'un de très moderne. Donc elle réconciliait un petit peu les deux tendances de la société française.
Est-ce que vous pensez, Frédéric Lenoir, qu'elle fera bouger l'Église? Là, on pense notamment à l'ordination d'hommes mariés. Bon, elle était en faveur de l'ordination d'hommes mariés. Et puis aussi à la pilule, quand elle voyait dans ses quartiers du Caire ces jeunes filles qui tombent enceintes très tôt.
Je ne pense pas qu'elle fera bouger l'Église. Ce ne sont pas quelques personnes isolées comme ça, aussi populaires soient-ils, qui puissent faire bouger le Vatican. Où là, vraiment, les enjeux sont infiniment plus importants. Il y a plus d'un milliard de 100 millions de catholiques dans le monde et le Vatican ne regarde pas ce que dit Sœur Emmanuelle ou tel théologien isolé. Donc là, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. D'ailleurs, elle avait écrit à Jean-Paul II en expliquant pour la contraception qu'elle était obligée de distribuer la pilule dans ses bidonvilles parce qu'elle voyait des jeunes filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans tomber enceintes tous les ans, qu'il n'y ait pas d'autre solution. Elle n'a jamais eu de réponse et c'est tout à fait compréhensible dans la logique de Rome. Maintenant, ce que je crois, c'est que de plus en plus de catholiques de base, même de prêtres, certains évêques, sont en accord avec ce que disait Sœur Emmanuelle sur ces deux questions et que c'est parce que de plus en plus de catholiques vont faire pression sur la hiérarchie que peut-être dans quelques années ou quelques décennies, l'Église peut évoluer sur ces questions-là.
Le père Guy Gilbert, dit curé des Loubards, pour avoir consacré sa vie aux jeunes délinquants et porté des blousons de cuir noir, était à Notre-Dame mercredi dernier pour la messe de Requiem. Nous lui avons demandé s'il voyait en Sœur Emmanuelle une grande ambassadrice de l'Église.
Oui, même si elle n'était pas dans les normes de l'Église, c'est-à-dire les normes, par exemple, pour la contraception, par exemple. Quand tu vois le pape là-haut qui parle de la misère, et quand tu la vis, toi, à côté, alors c'est totalement différent. Et elle pensait que la pilule, quand les filles étaient enceintes tous les ans, et qu'une grande partie des gosses mouraient, elle les voyait mourir, elle ne pouvait absolument pas l'admettre. Voilà. Donc, elle disait, il vaut mieux pas avoir d'enfant que d'avoir un enfant qui va crever de faim. Alors là, avec l'Église, évidemment, ça tiraillait. Elle était dans la patte humaine des souffrants. C'est ce que je vis personnellement, tu comprends. Je donne des capotes à mes jeunes parce que j'ai peur qu'ils mettent enceinte des filles de 15 ans ou alors donner le sida éventuellement, tu comprends. Donc, devant un peuple fragile, tu es obligé, à ce moment-là, de ne pas rentrer dans les normes de l'Église, de la contraception, etc. Tu peux pas, tu peux pas.
Sœur Emmanuelle se situait entre modernité et tradition, ce qui explique sa popularité auprès des médias et des Français. Une popularité qui ne doit pas pour autant occulter la radicalité de son engagement dans la foi et l'Église. C'est ce qu'a tenu à rappeler le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, avant de célébrer la messe de Requiem.
On ne comprend rien au sens de la vie de Sœur Emmanuelle si on n'a pas présent à l'esprit ce qui l'a animé tout au long de ses 100 ans de vie, c'est-à-dire la foi et l'amour du Christ. C'est par la foi et par l'amour du Christ qu'elle a ouvert son cœur à ceux qui avaient besoin d'elle pour manger et pour vivre. Et je crois que c'est un signe très important pour notre temps et pour notre société.
Les confessions de Sœur Emmanuelle ont été publiées chez Flammarion au lendemain de sa mort, les droits d'auteur étant reversés à Asmae, association Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle avait délivré ces dernières années son testament à travers des livres et des entretiens. Elle en a écrit un dernier pour le jour de ses obsèques, qui fut lu à Notre-Dame de Paris par le président d'Asmae, Trao Nguyen.
Si chers amis, nous le savons, l'amour est plus fort que la mort. Le lien d'amitié profonde que nous avons noué ensemble dans la joie a une valeur d'éternité joyeuse. Aujourd'hui, où vous vous êtes encore une fois dérangé pour moi, mon âme et mon cœur sont tout près de votre âme et de votre cœur. Yala, en avant. C'est passionnant de vivre en aimant.
Oui, près du Seigneur est l'amour.
Sœur Emmanuelle représentait l'engagement de nombreux religieux à travers le monde, luttant quotidiennement contre la pauvreté. Et pour Frédéric Lenoir, certains seront un jour, comme Sœur Emmanuelle, révélés par les médias.
Je suis certain qu'il y en aura d'autres. Maintenant, ce sera dans un style différent, parce que je crois que Sœur Emmanuelle, d'ailleurs exactement comme l'abbé Pierre et Mère Teresa, était issue d'un monde qui a un peu disparu. C'était des gens qui faisaient partie de familles traditionnelles, un peu bourgeoises, chrétiennes, très enracinées. Il y en a de moins en moins, et donc peut-être que les nouvelles figures qui apparaîtront dans les décennies à venir, ce sera très probablement un style différent.
À moins de 10 jours des élections présidentielles, direction les États-Unis, avec Lawrence Monroe qui vient de publier aux éditions du CERF un livre très documenté sur la transformation culturelle, religieuse et politique impulsée par l'arrivée massive des Latinos qui constituent aujourd'hui 15% de la population américaine. États-Unis, la métamorphose hispanique avec en couverture Notre-Dame de Guadalupe flottant au-dessus de la statue de la liberté illustre bien ces changements dont l'Amérique n'a pas encore pris la mesure. Lawrence Monroe est journaliste et a mis à profit un séjour de 2 ans dans la région de Houston, au sud des États-Unis.
C'est une croissance démographique considérable, exponentielle, qui surprend, qui n'arrête pas de surprendre à chaque recensement et qui bouscule profondément l'Amérique. C'est en tout cas ce que j'ai pu constater en vivant là-bas, au milieu d'une zone très très marquée par la présence hispanique. Et petit à petit, j'ai compris à quel point c'était les fondements même du credo américain qui étaient ébranlés par cette nouvelle population. Là, on a du mal à comprendre ça. Beaucoup d'Américains ne perçoivent pas à quel point cette population est en train de transformer leur culture. Et en Europe aussi, on ne comprend pas forcément pourquoi il y a un tel gap culturel. En arrivant aux États-Unis, ils ont une autre manière de s'intégrer. On a du mal aux États-Unis à penser la différence culturelle. Or, les Hispaniques, à commencer par les Mexicains américains, ont un grand sens de leur identité. Ils ne veulent pas lâcher leur identité. Ils tiennent énormément à leur tradition. Et ils revendiquent une nouvelle manière de s'intégrer dans la société américaine, sans se fondre dans le melting pot qu'il considère comme, qu'il dénonce un petit peu comme une utopie homogénéisante. Il dit, il y a une autre manière d'être américain. Somos americanos, nous sommes bien des Américains. Mais laissez-nous rester en lien avec nos racines. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont l'opportunité aujourd'hui de s'intégrer d'une autre manière que les précédentes vagues migratoires, hein, les euro-américains qui venaient de Pologne, qui venaient d'Irlande, qui venaient d'Italie, avaient été obligés de couper avec leurs racines. Ils arrivaient aux États-Unis, ils devaient devenir des hommes nouveaux, ils avaient envie d'être des hommes nouveaux, ils coupaient. C'est plus du tout le cas avec les Latinos. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce flot continu, et puis parce qu'ils restent extrêmement reliés à leur pays d'origine, à cause d'Internet, à cause de la télévision, à cause des radios, et à cause des populations qu'ils rencontrent.
Alors effectivement, donc il bouscule le credo du melting pot américain. Dans votre livre, Laurence Monroe, vous parlez d'un déni de la montée des Latinos aux États-Unis.
C'est difficile, je crois que c'est très difficile aux États-Unis d'accepter que sa culture soit remise en cause. Il y a cette notion que notre culture est la meilleure culture du monde.
Elle est anglo-saxonne, est protestante.
Voilà. Elle est chargée de valeurs qui sont magnifiques, hein, qui sont des valeurs démocratiques, qui sont des valeurs de respect des personnes, des individus, de liberté. Et tout ce qui est différent va être pensé un petit peu en termes hiérarchiques, ça sera inférieur. La culture hispanique est nettement perçue en termes d'infériorité. Quand on est aux États-Unis, c'est absolument frappant. À un point que nous, on a du mal à imaginer, nous, Européens. Parce que nous nous sentons assez proches des Hispaniques. Hein. À bien des égards, ils vont rapprocher les États-Unis du reste du monde. C'est une culture qui va transformer la société américaine dans un sens qui va nous rendre les Américains plus familiers.
Alors, les Latinos, non seulement bousculent l'identité américaine, mais elles bousculent aussi l'Église catholique. Alors, on commence par quelques chiffres qui sont parlants. Dans moins de 50 ans, en 2050, les Latinos constitueront la moitié...
Oh, c'est bien avant ça.
Bien avant ça ?
Oui, oui. C'est de 2020. Je pense qu'en 2020, les Latinos seront la moitié des catholiques américains. Aujourd'hui, si on prend la tranche la plus jeune de la population, les moins de 30 ans, ils sont déjà 45%. Or, quand on voit la croissance démographique, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Église catholique aux États-Unis est en train de basculer. Hein, la majorité ethnique est en train de basculer vers une Église qui va devenir à majorité latino. Alors ça, c'est déjà le cas dans une paroisse sur cinq. C'est considérable. C'est considérable. Et ça fait l'objet d'un véritable déni. Pourquoi ? Parce que la transformation est profonde, quoi. C'est pas seulement une langue différente. C'est pas seulement des pratiques. C'est toute une vision du monde qui interroge l'Amérique, qui interroge la manière dont le catholicisme s'est intégré à la société américaine.
Oui, c'est ça. C'est quand même une façon d'être. Parce que cette Église catholique américaine, elle s'est protestantisée.
Elle s'est profondément américanisée. Ça a été la politique de l'épiscopat jusqu'au début des années 70, hein, ça a été d'accueillir les migrants et de favoriser leur intégration dans la société américaine en les américanisant. Donc ils n'avaient pas le droit de parler leur langue, etc. Et toutes les institutions catholiques ont beaucoup œuvré dans ce sens-là. Et puis tout d'un coup, on a ouvert les yeux sur l'importance massive de l'immigration latino et surtout ce qu'ils apportaient. Une foi très effervescente, très profonde, un sens de l'Église. Les Latinos se sont organisés. Il y a eu une trentaine d'années pendant lesquelles les Latinos ont cherché à faire jaillir des leaders parmi eux. Ils ont proposé une pensée, un modèle d'Église qui soit profondément missionnaire. Ils interrogent l'Église sur sa mission. Ils interrogent l'Église sur son sens de la communion.
Oui, alors que vous, effectivement, quand vous décrivez l'Église américaine, vous parlez de responsables d'Église qui sont quasiment des chefs d'entreprise.
Oui, ça, alors hein, je parle
l'argent,
de...
L'argent, est effectivement, plus on rapporte d'argent, on est un meilleur pasteur.
On mesure l'intérêt d'une communauté à ce qu'elle rapporte, on mesure le fruit des quêtes, etc. Ça m'a beaucoup frappé. Toutes les opérations de fundraising, c'est quelque chose de considérable. Ça occupe énormément les catholiques américains, parce que c'est leur manière aussi de tenir leur place dans la société.
C'est ça, de lever des fonds, hein, c'est bien cela. Hein,
oui, oui, de lever des fonds, parce que c'est la manière dont fonctionnent les autres églises autour d'elles, et on est dans un univers extrêmement concurrentiel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Latinos, ils ne rentrent pas là-dedans. Par exemple, un exemple tout simple, c'est qu'ils ne s'enregistrent pas. Vous voyez, dans une paroisse catholique, il faut s'enregistrer, il faut être inscrit. Les Latinos n'ont pas le réflexe de s'inscrire, parce qu'ils appartiennent, ils ont un sens de l'appartenance qui est beaucoup plus organique, qui est beaucoup plus fondamental. Ils ont un désir de s'engager, mais ils ne voient pas l'intérêt de s'enregistrer. D'autant que pour beaucoup d'entre eux, ça ne leur apportera aucun allègement fiscal.
Alors, Laurence Monroe, vous pointez du doigt, bien sûr, la pauvreté dans laquelle vivent beaucoup de latinos, notamment à Houston où vous avez vécu pendant 2 ans, c'est même assez terrible hein, quand vous parlez de ces travailleurs pauvres qui briguent des maisons hyper luxueuses et tout ça pour payer des chaussures pour que leurs enfants aillent à l'école, etc. Bon, alors on peut supposer effectivement que ces travailleurs pauvres latinos interroge la société américaine et interroge l'Église catholique sur sa doctrine sociale qu'elle semble quand même avoir.
Il dérange, vous savez, les latinos, il dérange. L'Église catholique, elle est très puissante, elle est encore très riche. Bien sûr, il y a eu la crise du scandale des prêtres pédophiles. Mais enfin, elle dispose d'institutions prestigieuse, d'une puissance de publication, des universités. L'Église catholique a encore beaucoup d'argent. Or, les latinos dérangent parce qu'ils sont pauvres. Un tiers des latinos vit sous le seuil de pauvreté. Alors ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a du mal à les accueillir. Comment ça peut être perçu comme une bonne nouvelle? Or, les évêques ont pourtant reconnu, dans un certain nombre de documents pastoraux, que l'apport des latinos, de la culture latino, à la société américaine était une bonne nouvelle. C'était même providentiel. Certains m'ont même dit que les latinos allaient sauver la culture américaine. J'ai entendu des gens me donner des témoignages assez bouleversants sur la manière dont ils voyaient l'apport des hispaniques à la société américaine.
Alors, justement, sauver la culture américaine en leur rappelant peut-être ce qu'elle a oublié, ce qu'est le bien commun, etc. Ce qu'elle a oublié parce qu'elle est prise dans un consumérisme extrêmement oppressant.
Très, très oppressant, très, très oppressant. Les théologiens latinos, que je cite abondamment dans mon ouvrage.
Oui, et notamment un qui est en fait le fils, c'est ça, de l'ancien
président. Roberto Goizueta, c'est le fils d'un des présidents de Coca-Cola.
Il a évolué, ce garçon.
Un cubain américain. On ne peut pas dire qu'il a appartenu à une famille qui était marginalisée.
Et pauvre.
Et pauvre. Hein. Il avait tout pour être parfaitement assimilé, pour être un Américain parfaitement assimilé. Et pourtant, il a un regard extrêmement critique sur la société américaine, notamment sur la dimension consumériste. Il parle du consumérisme comme une oppression, de l'oppression la plus sournoise. Alors, il y a tout cet aspect de consumérisme. Ça ne veut pas dire que les latinos ne rentrent pas un peu, ne subissent pas comme tout un chacun la pression du matérialisme. Mais, dans leur culture, il y a des éléments qui représentent un petit peu des antidotes. Et un point sur lequel je souhaite beaucoup insister, c'est leur sens des relations. Quand on est latino, on se définit d'abord par ses relations.
Familiale,
communautaire. Il y a un sens de la communauté et une conception de la personne humaine qui rejoint assez en profondeur la conception portée par la doctrine sociale de l'Église, la conception personnaliste. L'homme n'est pas seulement un individu coupé de ses liens, coupé de ses pairs, coupé de sa communauté, c'est un individu qui n'existe que par ses liens. Voilà, ça je pense que c'est un des points sur lequel la présence latino est en train de transformer en profondeur la culture américaine, la société américaine. Ça ne se voit pas, mais c'est un effet de long cours.
Alors peut-être une présence providentielle.
Providentielle, comme l'ont dit effectivement certains des pasteurs et comme continuent de le répéter leurs leaders.
Alors, on termine, Laurence Monroe, avec d'une part la crise américaine. Est-ce que cette crise, Laurence Monroe, ne va pas aussi peut-être d'une certaine façon bouleverser profondément l'Amérique, cette Amérique qui veut toujours acheter, consommer, qui vit à crédit, qui n'entend que vivre à crédit, déjà. Et puis, deuxièmement, effectivement, les élections, le poids des latinos dans les élections. Alors, Laurence Monroe.
Je crois que la crise financière, elle est en train d'interroger en profondeur le schéma libéral, enfin l'extrême libéralisme. Et c'est vrai que les latinos ne sont pas des ultralibéraux. Les latinos sont favorables à plus d'État. Les latinos sont demandeurs de plus de justice sociale. Et ils apportent dans la société américaine un sens du bien commun qui est actuellement en déliquescence. Enfin, depuis les années Reagan, on ne parle plus que de l'individu.
Alors leur vote précisément, ils vont voter pour Obama?
Ah, 65% des latinos se portent en faveur d'Obama, ça c'est sûr.
Est-ce qu'ils se reconnaissent en Obama?
Je pense qu'il y a un point sur lequel ils peuvent se reconnaître, c'est le métissage. C'est un des aspects importants de mon ouvrage également. Obama est un métis. Or, les latinos font du métissage une valeur dans une société qui s'est construite sur la hantise du métissage racial. Et parce qu'ils sont métis, parce qu'ils sont issus du métissage africain, indien, ils apportent dans la société une aptitude à composer avec la différence. Dans ce sens-là, je pense qu'ils vont rapprocher la société américaine de nos sociétés.
C'était Laurence Monroe, auteur du livre « États-Unis, la métamorphose hispanique » publié aux éditions du CERF. Religion du monde, Geneviève Delrue, Thomas Ferrière vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.